Bonjour à chacun. Pour commencer la prédication, je vais donner la parole à Leïla qui va nous faire un petit témoignage de comment ce qu'elle a vu la gloire de Dieu se manifester durant un temps de faiblesse, durant un temps de confinement. Merci.
Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de se revoir, hein. Donc j'ai 2 minutes, c'est très difficile de parler de la bienveillance, de la fidélité de Dieu en 2 minutes.
Vraiment l'Esprit du Seigneur m'aide.
Donc je commence, donc ça, nous étions avec Marianne dans mon salon quand les SMS est arrivé que le concert de Rija ne pouvait pas avoir lieu. Et en même temps que ce SMS qui est arrivé, il y a une présence qui s'est imposée dans le salon qui était une mauvaise présence. Et ça a tenu toute la journée. Et le soir, avec une autre amie, on a élevé le nom du Seigneur. On a loué le nom du Seigneur et cette présence est partie. Mais par contre, elle s'est comme imprégnée dans une des parties de mon corps. Et j'ai entendu audiblement à l'intérieur de moi, atelier Bethléem, coronavirus, maison des bulles, coronavirus. Et j'ai dit non, ces deux endroits ont été initiés par le Seigneur. C'est ce que déclare le Seigneur, c'est ça qui va se passer. Et ça a tenu de 8 heures du soir, où je vais me coucher parce que le lendemain je fais mon pain, à 2 heures du matin. Et à 2 heures du matin, j'éloigne le micro, mais j'ai dit « ça suffit !» Et au millième de seconde, les voix sont arrêtées. Et j'ai compris qu'il y avait une stratégie de l'ennemi d'attaquer au travers du concert de Rija beaucoup de choses, y compris la maison des bulles, donc où nous étions impliqués, et l'atelier Bethléem. Deux choses initiées par le Seigneur. Quand cette présence est partie de mon corps, parce qu'elle me mordait, comme si ça me mordait à l'intérieur, et qu'elle est partie de l'atmosphère de mon salon, la joie du Seigneur est venue. Par contre, ben voilà, la réalité aussi, elle était là. Et les finances ont été coupées dans le domaine des marchés, dans le domaine des cafés, restaurants dans lesquels on livrait. Mais voilà qu'une de mes amies qui aussi, comme le Seigneur, à l'écoute du Seigneur, a ouvert un dépôt de pain au Locle, qui s'appelle la Boulan, pour ceux qui sont du Locle, sur l'initiative du Seigneur, en obéissance, elle l'a ouvert au mois de décembre 2019. Et en fait, c'est arrivé au mois de mars, et nous, pratiquement le 80% ou 70% de notre revenu vient de chez elle. Par obéissance au Seigneur, elle nous a permis de traverser. De traverser le moment difficile, plus un autre magasin, et rester ces deux endroits. Je ne sais pas, après, bien sûr, il y a eu ces moments où, tout à coup, je trouvais que la rhubarbe du jardin était magnifique, et puis que les graines que je gardais depuis des années dans mon appartement étaient peut-être bien sympas à utiliser. Et vraiment, j'ai fait part un petit peu de mes difficultés à Nicolas, qui a mis un mot. Et il y a des gens qui ont commencé à me commander du pain et je vous remercie infiniment de votre soutien. C'était juste génial. Je ne sais pas, mais je vais vous dire en 2 mots. L'atelier Bethléem a eu l'herbe coupée à ras, mais elle est restée verte. Ça, c'est fort. Et maintenant, on est en train de remonter. La maison des bulles, on n'a rien pu faire. On n'a pas fait d'appel de fonds, de demande, rien du tout. Surnaturellement, les finances sont arrivées. Et chaque fois qu'une toison était mise pour dire « est-ce que ça vaut la peine de garder le hangar ?», chaque fois le Seigneur répondait. Une fois, une personne a demandé que ça soit en dehors de quelqu'un qui connaissait la situation, qu'il y ait une somme qui soit donnée, et cette somme a été donnée. C'est complètement surnaturel. Dans ce temps-là, personnellement, bien sûr, j'étais travailler dans le fond, et dans le fond, il y a une certaine dureté qui a besoin d'être percée pour que vraiment l'Esprit du Seigneur puisse prendre sa place. Et ça m'a causé beaucoup de fatigue, ou aussi toute la fatigue qui est ressortie. Donc, incapacité de faire le ménage comme j'aurais voulu, incapacité de... Oh là là, ça me touche. De faire le jardin, incapacité. Et je n'ai même pas eu la force de demander. Et à chaque moment, j'ai eu un téléphone. « Salut, c'est Philippe du canton de Vaud. On te mettrait volontiers les géraniums puis les plantons. » Et ils sont venus, ils ont acheté... Ils ont acheté les plantons pour le jardin, ils ont acheté les géraniums, ils sont venus les mettre en famille. Moi, je leur ai fait leur pas, le petit déjeuner, leur pas, les glaces l'après-midi. Ils ont planté le jardin, retourné le jardin. Je n'ai pas eu la force de demander, ils ont appelé. j'ai pas eu la force de demander pour le ménage. Et je disais, mais Seigneur, je suis dans ta maison, regarde. Et tout à coup, Béatrice qui m'appelle, qui dit, là, tu me prêtes le bus, moi, je te fais 4 heures de ménage à fond. C'est impressionnant, des choses comme ça qui se sont passées. J'ai vraiment vu une bienveillance impressionnante de la part du Seigneur. Impressionnante, surtout dans les moments où justement j'étais hors jeu. Donc voilà, j'aimerais juste vous encourager que oui, le Seigneur est fort. Le Seigneur est fort quand il s'agit de son œuvre. Et c'est impressionnant quoi. Nous, on est hors jeu et lui, il est fort. Soyez bénis.
Merci beaucoup, Leïla. Je vais appeler aussi Dani. Merci beaucoup, Leïla, que le Seigneur te bénisse encore. Merci au Seigneur parce qu'il s'est glorifié dans ta situation et qu'il pourvoit encore à tous tes besoins. Donne la parole à Dani qui a aussi un petit témoignage où elle a vécu quelque chose de particulier pendant cette période de faiblesse, de confinement.
Bonjour tout le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille. Vous entendez ?
Là, vous m'entendez ?
Oui. Bon, j'ai la chance d'avoir une chouette famille avec qui je peux partager beaucoup de choses dans la foi. Mais toutes ces dernières années, il y a une chose qui me manquait. J'avais un sujet de prière régulier, c'est qu'on n'arrivait pas à prier ensemble avec mon mari. Et ça me chagrinait parce que je pense que c'est quelque chose de tellement précieux de pouvoir prier ensemble dans un couple. Et j'ai la conviction aussi qu'on est plus fort si on prie à plusieurs que si on prie chacun de son côté. Et ça ne veut pas dire que Christian ne priait pas lui. Alors, il priait aussi, mais il avait toujours des excuses. Enfin, il pensait que ce n'était pas forcément important. Il me disait toujours, non, parle pas maintenant, ce n'est pas le moment, ou bien je suis fatiguée, ou... Et moi, j'ai déjà prié pour ça, etc. Et ben, c'est quelque chose qui me pesait. Et c'était vraiment un sujet de prière pour moi. Et quand ça c'était avant, et quand on a été assez rapidement baigné dans le Covid puisqu'on a été mis en quarantaine, et ça a été vraiment des moments super. Ça n'a pas été plus contraignant que ça à part les masques, mais ça nous a donné la compassion pour ceux qui devaient travailler avec, et ça nous a vraiment rapprochés. Et petit à petit, au travers de ce qui se passait autour de nous, on a commencé vraiment de prier ensemble. Christian a enfin été d'accord de prier avec moi. Et ça nous a vraiment rapprochés. C'est quelque chose qui m'émotionne parce que c'était tellement important pour moi. Et on a vécu des moments très intenses de prière. On a commencé par prier pour Christine, la maman de Céline, qu'on savait qu'elle était hospitalisée. Et après, j'ai une amie du Val-de-Ruz qui nous a demandé de prier pour un proche qui était aussi atteint par le Covid, mais qui était dans le coma et qui était vraiment mal, quoi. Et on a continué comme ça. Après, il y a eu le WhatsApp communion fraternelle où il y avait aussi des sujets. Et voilà, ça a vraiment été un temps béni. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça parce que ça va continuer.
Merci beaucoup, Dani. C'est magnifique de voir comment le Seigneur agit. Merci.
Alors, nous allons commencer la prédication. J'ai demandé des témoignages parce que la faiblesse n'a pas bonne presse. Pour faire son chemin dans la société, il vaut mieux être en possession de tous ses moyens, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychiques, qu'il soit intellectuel, professionnel, financier, que sais-je. Et on n'apprécie pas d'être limité. On n'apprécie pas d'être contraint ou d'être handicapé, que ce soit physiquement ou autrement. Pourtant, ça nous arrive à tous à un moment donné d'être atteint par une limitation. Ça nous arrive à tous à un moment donné de notre vie d'être dans la faiblesse. Ça nous arrive à tous d'être contraints, d'être frustrés, de faire face à quelque chose qui fait que notre vie ne peut pas se déployer comme on aimerait. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas ça et c'est normal qu'on n'aime pas ça. Et justement, ces derniers mois, ces trois derniers mois, on a tous été contraints, on a tous été limités, et la terre entière a été limitée. On est en train de sortir plus ou moins d'un grand état de faiblesse. Et ce qu'il y a surtout dans le milieu chrétien, c'est que parfois on a la fausse compréhension, on croit que parce qu'on est chrétien, notre vie devrait super bien se dérouler. Des fois on se dit, mais s'il y a des obstacles, c'est parce que je manque de sanctification, ou parce que j'ai péché, ou je ne sais quoi. Alors des fois c'est vrai. Si volontairement je mets ma main sur la plaque chaude, je vais me brûler. Mais si on me pousse sur la plaque chaude, on est dans un autre contexte. Moi, je vais parler de la faiblesse quand on nous pousse sur la plaque chaude. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, d'avoir des difficultés de vivre des temps de faiblesse, c'est quelque chose qui fait partie de notre parcours et c'est normal, même si c'est désagréable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la faiblesse, une certaine sorte de faiblesse, a quelque chose de fondamental. Et la personne qui l'a le plus prouvé, c'est Jésus-Christ à la croix. Dans 2 Corinthiens 13, au chapitre 4, Paul il nous parle de Jésus en disant « Il a été crucifié à cause de sa faiblesse » ou « dans la faiblesse » selon comment on traduit ce mot. Mais il vit par la puissance de Dieu. Jésus, il s'est fait tellement faible, il était tellement faible, tellement dénué de tout au moment de sa crucifixion qu'il est l'exemple suprême de qu'est-ce que c'est de descendre le plus bas possible, d'être dans la faiblesse la plus profonde, et la gloire de Dieu s'est manifestée avec une puissance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer et penser. Non seulement la faiblesse, elle nous oblige de dépendre de Dieu totalement, mais elle permet à Dieu de manifester sa puissance. Et il y a une personne qui l'a vraiment expérimenté dans la parole, c'est l'apôtre Paul. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et cette épître, elle est vraiment étonnante. C'est une épître où Paul se livre énormément. C'est presque une autobiographie. Et c'est quelque chose qu'il ne fait pas dans les autres épîtres. Mais là, vraiment, il livre son cœur. Il y a des moments où il est dans la joie. Il y a des moments où il est fâché. Il y a des moments où il se moque presque des gens qui l'accusent ou qui lui reprochent des choses. Les Corinthiens, c'est une église difficile. En fait, l'église de Corinthe, c'est une église de personnes cosmopolites. Et ce sont des gens, les Corinthiens, qui aiment ce qui frappe les yeux. Ils sont prétentieux, ils regardent à l'apparence, ils recherchent le miraculeux, l'éloquence, tout ce qui frappe les yeux, le faste. Alors, ils reprochent à Paul de ne pas être doué d'éloquence, de ne pas frapper les yeux, d'être faible. Et Paul, il se défend. Dans cette lettre, il se défend. En fait, ce que les Corinthiens ne supportent pas, c'est le fait que la vie chrétienne, c'est un processus de mort à soi-même. Eux, ils préfèrent vraiment la prétention, le prestige. Ce qui fait qu'il y a des super apôtres. Et là, Paul, il se moque même de leurs soi-disant prophètes, de leurs soi-disant apôtres. Il les traite presque de super apôtres, vraiment en se moquant. Et ce qui fait qu'il leur adresse cette lettre et il leur explique, « Eh bien, moi, si je peux me glorifier, si je peux être prétentieux de quelque chose, ça ne va pas être de mon éloquence ou de je ne sais quoi, mais ça va être de ma faiblesse. » Et ce passage, on le lit donc dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Et il explique pourquoi il peut se glorifier dans sa faiblesse. Parce que Paul, à un moment donné de sa vie, il a eu une révélation. Dieu lui a donné une telle révélation, il a été enlevé dans les lieux célestes et il a vu des choses tellement merveilleuses que c'est ce qui a pu lui permettre d'écrire toutes ces lettres qui nous sont arrivées. Alors il parle de ça, il parle de cette expérience. Et il explique qu'il ne peut pas se glorifier de ce qu'il a vu parce que lui, il n'y peut rien du tout. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce ne fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'est à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul est en train de dire qu'on lui a mis une écharde dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas et que cette écharde, elle lui crée une faiblesse. Une faiblesse, et dans cette faiblesse, il peut se glorifier parce que Dieu, parce que Jésus peut se manifester avec puissance. Ce mot faiblesse, une faiblesse dans le corps, dans la chair, c'est très difficile de savoir exactement ce que ça signifie. Mais par exemple, dans Matthieu 8, 17, qui fait écho à Ésaïe 53, il est dit que Jésus a pris nos infirmités, que Jésus a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. Donc on peut associer faiblesse à maladie, à infirmité. La femme courbée dans Luc 13, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme ou faible, c'est le même mot. Et ce qui fait que pendant 18 ans, elle a été courbée, elle ne pouvait pas se relever. Et dans Romains 8, 26, la faiblesse se traduit par notre incapacité à prier. Là, ce n'est plus quelque chose de physique. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Une autre forme de faiblesse, c'est la tentation. Dans Hébreux 4, 15, il nous est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Donc la faiblesse, elle peut être une douleur physique, une limitation physique, mais elle peut aussi être une affection psychique. Elle peut avoir plusieurs formes. Et pour Paul, on ne sait pas trop ce que c'est cette histoire d'écharde dans la chair. Je pense qu'on le saura seulement une fois qu'on sera au ciel. Il y a beaucoup d'encre qui a déjà coulé à propos de cette écharde. Et souvent, l'interprétation, c'est qu'il avait un problème dans les yeux. Parce qu'il y a un verset dans les Galates qui parle que Paul avait un problème dans les yeux. Mais là, on n'est pas dans les Galates, on est dans Corinthiens. Et son contexte dans les Corinthiens, il est un petit peu particulier. Et Paul, il en parle. Il y a aussi deux versets qui utilisent ce mot « aiguillon » et qui parlent des yeux dans l'Ancien Testament, qui parlent de cette faiblesse qui fait qu'on pourrait avoir des aiguillons dans la chair qui gênent nos yeux, mais qui sont en rapport avec des ennemis. Et on le trouve, par exemple, dans Nombre 33, au verset 55. « Mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Et il y a un même verset qui ressemble énormément dans Josué. Donc vraiment cette écharde dans la chair, bien sûr que ça peut être dans les yeux, mais il y a un rapport avec des ennemis, avec de l'opposition. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette lettre, cette deuxième lettre aux Corinthiens. En fait, quand Paul il écrit aux Corinthiens, il en est déjà à son troisième voyage missionnaire. Donc il a déjà bien roulé sa bosse. Il n'est pas tout jeune. Et il est dans un état de faiblesse physique. Et peut-être que des fois, il a aussi le moral qui est lourdement atteint. Parce qu'il a vécu énormément de solitude dans tout ce qu'il a traversé. Et pourtant, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté malgré les difficultés. Il a instruit, il a édifié, il a établi des églises, il a opéré des miracles, il a passé des nuits, des jours entiers dans la prière. Mais il vivait vraiment des choses difficiles. Et à un moment donné, c'est tellement lourd qu'il vide son cœur et il dit aux Corinthiens, ben voilà ce que moi j'ai vécu. Et voilà dans quelle faiblesse je peux me glorifier. Et c'est juste avant, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23. Il demande s'il peut se glorifier de ses faiblesses plus que les faux apôtres et dit « Oui, je le puis, plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. » 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Et il rajoute encore, même à Damas, on a dû me faire passer par-dessus la muraille dans une corbeille pour que je puisse fuir. Paul, là, il est en train de dire, ben voilà ce que c'est mon service pour les églises, mon service pour vous. C'est quoi ma vie chrétienne à moi? C'est d'avoir traversé des naufrages, d'avoir été lapidé, d'avoir été fouetté. Quand on a vécu tout ça dans son corps, il y a de quoi être affaibli. Et il a demandé au Seigneur 3 fois, « Mais éloigne de moi cet aiguillon, éloigne de moi cette écharde que j'ai dans la chair. » Alors peut-être qu'il avait quelque chose dans l'œil, peut-être qu'il avait vraiment quelque chose, un aiguillon suite à des agressions qu'il n'a pas pu enlever et qui le freinaient, qui le limitaient. Et 3 fois, il a demandé au Seigneur, « Mais enlève ça de moi. » Ça veut dire quoi, trois fois? Est-ce que juste trois fois, il a dit « Seigneur, s'il te plaît, enlève ça de moi » ? On ne sait pas. Peut-être que pendant trois fois, il a fait 40 jours de jeûne. On ne sait pas. Peut-être qu'il a passé un temps à genoux, à user ses genoux, à réclamer au Seigneur d'être délivré. On ne sait pas comment ce qu'il l'a fait. Mais le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit. » Waouh ! Une fois, je traversais quelque chose d'extrêmement difficile et quelqu'un a prié pour moi. Et dans la prière, cette personne m'a dit « La grâce du Seigneur te suffit. » Eh bien, ça m'a plombé le moral. Ça a été super dur parce que je me suis dit « Bon, ben, si j'ai juste la grâce du Seigneur, je suis sauvée, tant mieux, mais mes problèmes, ils restent. » Je n'avais pas compris. Mais cette personne ne m'avait pas non plus dit le verset en entier. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est là qu'il y a quelque chose qu'il faut saisir. Quand on traverse un temps de faiblesse, c'est justement l'occasion que Dieu puisse intervenir. Au moment où on lâche, on dit « Ok Seigneur, ben voilà, moi je ne peux pas. Moi j'ai toutes ces limitations, j'ai toutes ces difficultés. J'étale tout ça devant toi. » Mais je te demande de venir te glorifier là-dedans. Glorifie-toi dans ma faiblesse. Parce que moi, je continue de te choisir, de te servir, mais toi, il faut que tu agisses. Et c'est dans cet état que le Seigneur peut agir. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une femme de 32 ans, peut-être que vous en avez entendu parler, Esther Han Kim. C'était une Coréenne et elle vivait dans son pays pendant l'occupation japonaise. Elle était chrétienne et dans les rues, à plusieurs endroits, il y avait des statues et tous les gens, quand ils passaient devant les statues, ils devaient se prosterner devant la statue. Mais elle était chrétienne. Elle ne voulait pas se prosterner devant la statue. Alors elle résistait. Et elle savait qu'à un moment donné, à cause de ça, elle se ferait arrêter. Et elle savait que les conditions d'emprisonnement seraient extrêmement difficiles. Alors elle s'est préparée. Elle a commencé à manger de la nourriture avariée pour habituer son corps, parce qu'elle savait que c'est ce qu'elle recevrait en prison. Elle a multiplié les jeûnes pour s'habituer et aussi pour se rapprocher du Seigneur. Elle a développé son intimité avec Dieu. Elle a appris des chapitres de Bible entiers, parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas avoir de Bible avec elle en prison. Elle avait 32 ans. C'était il n'y a pas si longtemps. Et un jour, elle s'est fait arrêter. Et elle a reçu de la nourriture avariée. Elle en a peut-être pas reçu tous les jours. À un moment donné, elle a même donné, pendant 3 jours de suite, elle a donné ses portions à une personne qui partageait sa cellule. Elle s'est occupée des autres. Et elle était tellement proche du Seigneur, elle avait un tel rayonnement que ça s'est vu, que ça s'est su. Et grâce à elle, assez rapidement, les tortures des chrétiens se sont peut-être pas arrêtées, mais en tout cas se sont fortement atténuées. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Et à la fin de la guerre mondiale, 6 ans après avoir été emprisonnée, elle a été libérée, elle s'est mariée, et elle a sillonné le monde entier pour parler de la puissance de Dieu. Mais à un moment donné, elle a été dans une extrême faiblesse. Et le fait de savoir que ça risquait d'arriver, elle s'est préparée. Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment vous, vous êtes. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce confinement, mais je sais que ça a représenté beaucoup de défis pour beaucoup d'entre nous. Il y en a certains aussi qui sont atteints dans leur santé. Il y en a qui ont des soucis au niveau de leur famille. Chacun que nous sommes ici, nous pouvons vivre un état de faiblesse ou avoir quelqu'un de notre entourage, de nos proches qui vivent cet état de faiblesse. Mais le Seigneur peut se glorifier là-dedans. Et je crois que c'est vraiment le message à saisir ce matin. Le Seigneur se glorifie. On ne sait jamais comment ce qu'il va s'y prendre. Ce n'est pas forcément de la manière dont on s'y attend. Mais il le fait. Le Seigneur peut guérir. Le Seigneur peut pourvoir. Le Seigneur, il a répondu aux prières de Dani. Et il y a quelque chose qui a changé dans ce qu'elle vit avec Christian. Et tout ça, ça porte du fruit dans la vie des gens pour lesquels ils prient ensemble. Le Seigneur s'est manifesté dans la faiblesse de Leïla et il a pourvu à ses besoins, alors qu'en fait, humainement, c'était vraiment compromis. Des témoignages comme ça, il y en a encore d'autres. Et ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager et vraiment de se dire, bon Seigneur, dans l'état de faiblesse dans lequel je suis aujourd'hui, comment est-ce que tu peux te manifester et moi, comment est-ce que je peux te laisser agir? Comment est-ce que je peux lâcher prise, ne plus me battre par mes propres forces et te laisser toi agir? Et je crois que c'est ça le déclic qu'on doit faire. Nous présenter devant Dieu et dire, ok Seigneur, comment? Je m'attends à toi, je mets mon espérance en toi. Je vais terminer et ce que je propose, c'est que on va prier et les personnes qui vivent quelque chose de difficile, soit dans leur vie, dans leur santé ou dans une situation, ou alors les personnes qui, dans leur entourage, ont quelqu'un qui passe par quelque chose de difficile, ben moi je vous invite à vous lever et on va prier ensemble. On ne va pas nommer spécifiquement les gens, mais vous pouvez les nommer devant Dieu. Mais on va prier ensemble pour que le Seigneur puisse venir manifester sa puissance dans notre faiblesse. Alors si quelqu'un est dans cette situation-là, ou si quelqu'un a un membre de sa famille ou de ses proches qui vit un moment de faiblesse, je vous invite à vous lever. Et moi, je suis debout avec vous. Merci Seigneur parce que nous sommes debout devant toi. Seigneur, tu vois chaque personne debout devant toi. Seigneur Jésus, moi j'invoque ton nom sur chacun d'entre nous. J'invoque ton nom sur chaque personne que nous sommes ou que nous représentons. Seigneur, tu sais qui nous sommes en train de nommer devant ton trône de grâce. Et je te remercie Jésus parce que maintenant tu es présent, parce que tu nous as ouvert la voie pour que nous puissions nous présenter devant le Père. Je te demande, Seigneur, de nous aider à te voir, à prendre conscience que tu es vraiment là. Et je te rends gloire pour ta présence, je te rends gloire pour ton amour, je te rends gloire pour ta bénédiction, pour ta grâce. Jésus, je te remets toutes ces personnes qui sont debout et toutes ces personnes qui nomment des gens devant toi. Tu connais les situations. Et c'est dans ta parole que tu as écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Tu dis un mot et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Alors je te demande de venir rejoindre chaque personne dans toutes les circonstances qui sont des états de faiblesse. Jésus, je te demande de glorifier ton nom. Je te demande d'apporter les guérisons là où il y a besoin de guérison. Je te demande de restaurer, je te demande de fortifier les cœurs. Il y a un cœur ici qui a besoin d'être fortifié. Et je te demande ta guérison surnaturelle, que ta puissance se déverse maintenant. Il y a des personnes qui ont besoin de moyens financiers. Je te demande que les écluses des cieux s'ouvrent. Il y a des personnes qui ont besoin de nouvelles capacités, qui ont besoin d'être renouvelées dans leur intelligence. Je te demande, Saint-Esprit, de renouveler l'intelligence de tous ceux qui en ont besoin. Il y a des personnes qui ont besoin de consolation. Je te demande, Saint-Esprit, ta consolation. Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Il y a des couples qui ont besoin d'être restaurés. Il y a des gens qui ont besoin d'être relevés. Il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés. Je te remets toutes ces personnes. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu pourvois. Je sais que tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de puissance. Alors j'élève ton nom sur toutes ces situations. Que chaque personne qui sont mentionnées maintenant ou présentées devant ton trône soit couverte par ton sang, Jésus. Ton sang qui guérit, ton sang qui purifie, ton sang qui manifeste sa victoire. Parce que tu as englouti dans ta mort toutes nos souffrances, toutes nos échardes, tous nos aiguillons, toutes nos faiblesses. et tu es ressuscité et tu es souverainement élevé. Ta puissance s'est manifestée. Ta puissance se manifeste dans nos faiblesses. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen.